Bonsoir à toutes et tous, il est 20h passé de 2 petites minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonjour à tous et bienvenue donc sur Génération Sport. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sportive angevine et évidemment on traite de toute l'actu sportive nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. On a encore une fois un nombre réduit, Cédric, et on sera encore moins en fin d'émission puisque donc Max n'est pas là. Pour il a pareil encore une fois le travail l'oblige à rater cette émission et du coup voilà, il n'est pas là, il s'en excuse évidemment et on le retrouvera la semaine prochaine, on l'espère. Et puis donc déjà bonjour à toi Cédric, bonjour à toi.
Ah oui, bah oui, moi, hélas, faudra que je m'absente juste après le 1-2, donc à peu près à la moitié de l'émission. Mm-hmm. Bah oui, il faut quand même aller nourrir, hein, puisque, comme vous l'avez dit la semaine dernière, hein, Max travaille dans une cave, il faut bien le,
ah oui, c'est ça.
Faut bien le nourrir et l'aérer un petit peu de temps en temps. Donc, c'est mon tour aujourd'hui d'aller m'en occuper.
Et du coup, ouais, tu vas nous parler quand même, tu auras quand même le temps de nous parler de cet événement qui s'est passé. Donc,
c'était peut-être l'événement de la semaine, oui, pour le sport angevin.
Exactement, on reviendra dessus, hein, évidemment. Puisque tu étais donc au match pour cette demi-finale dont on a parlé la semaine dernière, la demi-finale de Coupe de France entre les Ducs d'Angers et les Boxers de Bordeaux. On reviendra dessus après. Mais en tout cas, voilà, c'était un grand moment pour toi.
Oh, ça a été dur cette finale.
Il y avait du suspense.
Il y a eu du suspense.
On n'en dit pas plus, mais il y avait du suspense.
C'est un petit teasing.
Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Skokim Ball, puisqu'on va donc recevoir donc Fabien Rio, qui est le président du club, et Céline Robert, qui est une joueuse expérimentée du Kim Ball. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Donc, on viendra vers vous donc dans la suite de l'émission pour l'interview, pour parler de voilà du Kim Ball, le faire peut-être découvrir à certaines personnes, et puis parler des actualités du club. C'est vrai que tu voulais, non tu voulais...
Non.
On va donc pouvoir commencer tout de suite avec votre traditionnelle 1-2 qui sera encore une fois seulement un 1. Mais bon, voilà, vous avez à l'avoir.
Ah, mais tu vas être bon pour les pénaux d'ici la fin de la saison.
C'est ça, je vais jouer tout seul maintenant. mais du coup, voilà, on va être complet évidemment sur toute l'actualité locale et internationale. On va commencer avec le basket tout de suite. De retour après la trêve hivernale, l'UFAB 49 comptait démarrer l'année 2022 sur les mêmes bases que l'an précédent et ce fut chose faite samedi soir à domicile contre Landerneau. Pour rappel, l'équipe bretonne avait empêché les Angevines de monter en LFB lors de la finale des playoffs 2018. 3 ans et demi plus tard, les joueuses de David Gauthier ont pris leur revanche en s'imposant au bout du suspense 69-64. Ce succès permet aux partenaires d'Issa Rondo de remonter à la 5e place, un classement plutôt inespéré pour le premier Angevin au terme de cette phase aller de Ligue féminine. À l'inverse, les joueurs de l'Étoile Angers Basket débutent 2022 par une défaite sur le terrain de Vitré, 65-58. Bien partis dès l'entame de match, les hommes de Sylvain Delorme ont flanché lors du second quart-temps perdu 22-6. Après ce coup d'arrêt, Angers reste tout de même leader de National 1 avant d'affronter Tarbes-Lourdes vendredi prochain. Enfin, Cholet a bien failli réaliser un bel exploit face à l'ASVEL, l'un des deux seuls clubs français qui évolue en Euroleague. Le défi était grand pour le club maugeois que l'on sait en difficulté depuis quelques temps. Mais la victoire à Dijon il y a 2 semaines maintenant a reboosté les hommes de Laurent Villa et le CB entamait plutôt bien la rencontre en remportant la première mi-temps 49-40. Malheureusement, la Meilleraie voyait ses protégés céder lors du 3e carton perdu 35-19. L'ASVEL finira donc par s'imposer 90-85. Mais Cholet peut se satisfaire de poursuivre donc lentement mais sûrement sa course vers le maintien. On va donc tout de suite faire un tour sur l'actualité du SCO. Vous n'êtes pas sans savoir que le match de la 20e journée contre Saint-Etienne a été reporté au mercredi 26 janvier à 19h. Il n'y a donc pas eu de match ce week-end pour le SCO, mais la reprise de la compétition est prévue pour ce dimanche à 15h au stade du Moustoir de Lorient. Au niveau du mercato, l'effectif de la deuxième partie de saison commence tout doucement à se dessiner. Déjà 6 départs ont été actés. Bernardoni et Tube sont partis à Saint-Etienne, El Melali à Pau, Magri à Bastia, Bobichon à Nancy ou encore Ninga prochainement à Quevilly-Rouen. Côté arrivée, il faut dire que Saïd Chaban a fait fort. Alors que le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb s'entraînait depuis le début de la saison avec la réserve du SCO en attendant de retrouver un club, ce dernier a finalement rejoint l'effectif pro pour de bon en paraffant un contrat qui le lie désormais au club angevin jusqu'en 2025. Et puis, actu récente, en tout cas c'était hier, Sofiane Boufal a marqué avec le Maroc lors de la CAN, hein, lui qui était sélectionné avec son coéquipier en club Azedine Ounahi qui était également titulaire. Donc voilà, Boufal buteur et élu homme du match face à ce match d'ouverture du Maroc face au Ghana. Et puis on termine le point football par de la jeunesse avec la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans. Trois équipes du Maine-et-Loire étaient engagées ce week-end à l'occasion des 32e de finale. Le SCO d'Angers, le SO Cholet et le SC Beaucouzé. Seuls les U18 du SCO ont réussi à rallier le prochain tour en s'imposant 4-0 contre Plabennec. De leur côté, les Beaucouzéens avaient fort à faire face aux jeunes du FC Nantes, mais la marche était trop haute pour le SCB, défait 5-0 sur sa pelouse. Enfin, les jeunes Choletais ont été sortis par sa rente de but à 0. Enfin, pour être complet sur l'actualité sportive locale, nous devons obligatoirement revenir sur la demi-finale de Coupe de France de hockey sur glace remportée par les Ducs d'Angers ce dimanche après-midi contre les Boxeurs de Bordeaux. Cédric était notre envoyé spécial en quelque sorte à l'Ice Park. Il était même au sein du tout nouveau PUC, ça Cédric, le nouveau groupe de supporters des Ducs d'Angers qui s'est créé très récemment.
C'est ça, oui, c'était la première sortie officielle à l'Ice Park du PUC en juin. Donc c'est un nouveau club de supporters qui s'est créé pour relancer une dynamisme au niveau de la patinoire, puisque l'idée en fait est née d'un article qu'il y avait eu dans Hockey.io suite à un match des Ducs où on reprochait au public en juin, et c'est souvent ce qui est reproché un peu au public en juin, de pas forcément s'investir dans les matchs. Mmh. Donc, du coup, eux, ils se sont dit, on va créer notre coin aussi. Et donc, il faut savoir que c'est pas lié à une scission, par exemple, au sein des Raptors. Le groupe des Raptors existe toujours. Le but, c'est que les deux collaborent aussi. Donc, du coup, ils sont même en porte-à-faux. Donc, en termes de pression et de bruit pour les adversaires, ça va changer sûrement la donne. Et c'est vrai que, le fait, par exemple, de ramener deux tonneaux pour faire du bruit, c'est vrai que ça
change tout. Ouais.
Ça change la donne. Pour un match, ça met une petite. Ça va faire un petit chaudron. Enfin, voilà, je crois que de toute façon, tu as pu.
Effectivement.
Utiliser quelques extraits de ce que j'ai pu enregistrer.
Tu étais prêt, donc, de ce.
Je crois j'étais au.
Au cœur.
Enfin, moi, j'étais en hauteur, du coup.
Au cœur du.
Mais. Pour mieux filmer, pour Facebook, et puis.
Exactement,
capter le son, mais ça rendait bien, quoi.
Et donc, on va écouter tout de suite un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance. L'ambiance qu'il y avait donc dimanche après-midi à l'Ice Park. Voilà, petit florilège de ce qui s'est passé dimanche avec une belle ambiance qu'on a l'habitude de voir, en tout cas notamment à Jean-Bouin pour les matchs de hand, de basket, etc. Et là, en tout cas, ça fait plaisir de voir aussi cette belle ambiance aussi. J'ai dit beaucoup de fois ambiance depuis le début, mais
il y avait de l'ambiance.
C'est ça, c'est ce qu'il y avait. Donc voilà, un sacré engouement autour du puck.
Ouais, en tout cas, voilà, on va leur souhaiter de s'agrandir et de pouvoir faire changer les choses et que le public en juin adhère au projet, quoi.
Et du coup, sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé? On a dit que c'était un match serré. Il y a eu Angers qui menait 1-0, égalisation de Bordeaux, et puis Angers qui marque. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé sur la patinoire? Qu'est-ce qui s'est passé?
Raconte-nous. Les 20 premières minutes, c'est du 0-0, ça veut pas rentrer des deux côtés, il y a sûrement eu un round d'observation. En tout cas, enfin voilà, on les a sentis quand même direct prêts à aller chercher cette victoire, mais c'était compliqué. Retour de ce premier tiers-temps, donc il y a ce but qui forcément libère un peu les esprits, mais bon, comme on sait, au hockey, tout peut aller très vite. Et c'est vrai que ça a été relativement vite, Bordeaux qui égalise. Et il a fallu attendre vraiment les 40 dernières secondes de cette deuxième période pour mettre ce but. Et la troisième période a été un peu plus compliquée pour nos Ducs, puisqu'ils se sont retrouvés plusieurs fois en infériorité, à jouer à 3 contre 4, 3 contre 5. Ouais. Plusieurs fois d'affilée, je crois qu'ils ont dû jouer à peu près 3 minutes comme ça, au cumul. Donc c'est toujours dur de défendre. Ils ont tenu. Et puis voilà. Voilà, quand au bout de 60 minutes de jeu, c'était fait. C'est la première demi-finale remportée à domicile dans l'Ice Park. Je crois que ça va être la troisième finale où.
Des Ducs.
Donc. Ouais, une grosse émotion pour ceux qui suivent l'équipe. Et puis, c'est vrai que c'est tout nouveau à l'Ice Park au final. On n'était que 2000.
Ouais, parce qu'il y avait la jauge.
Il y avait la jauge et c'était.
C'était quand même.
C'était plein, ouais. Belle surprise. Hein, on le sentait quand même un peu venir au vu des résultats.
Sur le papier, Angers était favori.
Mais bon, sur 60 minutes, tout était possible. S'il y avait eu égalité, c'était des prolongations. Si prolongation, il y avait toujours 0-0, on pouvait aller au pénalty. Et les pénaltys, c'est toujours compliqué. Donc là, ils ont réussi à gérer un peu le troisième tiers. Et c'est vrai que. Ça fait des frissons hein, quand on aime ce sport. Quoi.
Et au niveau de la finale, l'adversaire, est-ce qu'il est encore, il est connu ou pas ou...
Il n'est pas encore connu puisque le deuxième match aurait dû jouer la semaine dernière, mais pour cause de Covid a été reporté à, je crois, cette semaine.
Ouais.
Et maintenant il y a le problème, c'est de savoir où on va jouer la finale puisque
ça
devait être à Bercy, sauf que Bercy avec 2000 personnes.
C'est vide. Ça résonne un peu.
Ça va coûter plus cher à la fédération. Pour avoir lu des articles, apparemment, déjà sur une finale normale, la fédération ne gagne pas forcément de l'argent. Okay. Donc là, ce serait plus en perte. Donc là, ce serait peut-être faire la finale à Cergy.
Ouais, Cergy Pontoise, j'ai vu ça qui était envisagé pour cette finale.
Normalement, on devrait savoir ça dans la semaine.
Bah oui, parce que la finale, c'est déjà le 30 janvier, ça arrive vite.
Ça va arriver très vite.
On va voir ce qu'on fera comme dispositif, hein, on vous tiendra au courant. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être un assez gros événement dans la saison angevine et un événement pour le sport angevin. Rien d'autre à rajouter sur le match, sur peut-être la suite de la saison qui attend les Ducs.
C'est dès ce soir pour les Ducs. Déplacement.
Voilà, on perd pas de temps.
On perd pas de temps à voir comment on va être digéré cette victoire. En tout cas, pour avoir attendu les joueurs après le match, justement, avec quelques irréductibles pour les féliciter, ils sont sortis quand même sereins du match. Ils n'étaient pas dans l'euphorie non plus.
Ils sont focus sur la
finale. Voilà, je pense qu'ils ont savouré cette victoire. Maintenant, je pense qu'ils sont focus sur le championnat. Ouais. Et puis ça va monter progressivement quoi.
Ouais, je pense que c'est surtout une belle occasion pour eux de récompenser leur saison. L'année dernière, ils avaient été très bons et au final, il n'y avait pas eu de récompense.
Il n'y avait pas eu de play-off.
Il n'y avait pas eu de play-off. Et puis là, si jamais.
L'année d'avant,
il y a le Covid.
Il y avait Covid. Je ne sais plus s'il n'y avait pas eu élimination.
Ouais, voilà.
En tout cas, ou pas de championnat, pas de Coupe de France.
Mais en tout cas, pour l'avenir, les Ducs sont amenés à sortir en play-off, etc., au moins ils auront peut-être cette Coupe de France qui pourra les consoler. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut être une très bonne chose pour eux de gagner cette Coupe de France.
Et voilà, donc le match c'est à Amiens ce soir et il a débuté depuis une minute.
Très bien, pourquoi pas, si jamais j'arrive à avoir des infos, je vous redonnerai s'il y a les buts qui arrivent au cours de l'émission. On va passer aux actualités nationales et internationales maintenant. On va commencer avec la Ligue 1. C'était ce week-end le retour de notre championnat de France sur les pelouses de l'Hexagone. Le choc de cette 20e journée opposait dimanche soir le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais. Au Groupama Stadium, ce sont les Lyonnais qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Lucas Paqueta avant de voir Thilo Kehrer égaliser en fin de match. Au classement, les Parisiens sont toujours leaders tandis que l'OGC Nice a récupéré sa deuxième place en s'imposant contre Brest 3-0 après la victoire de l'OM vendredi contre Bordeaux. Une victoire d'ailleurs qui était historique pour les Phocéens qui mettait fin à une disette marseillaise longue de 44 ans en terre girondine. Quant à l'AS Monaco, c'était dimanche le premier match de son coach belge Philippe Clément. Et l'AS Monaco a concédé le nul à Nantes 0-0. On enchaîne avec du tennis. À une semaine du début de l'Open d'Australie, le Français Gaël Monfils a remporté le tournoi ATP 250 d'Adélaïde. Le tennisman tricolore glane ainsi son premier tournoi depuis 2 ans, le 11e de sa carrière, après sa victoire en finale contre le Russe Karen Khachanov 6-4-6-4. J'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que il y a une autre actu importante sur le tennis. Ça concerne aussi l'Open d'Australie qui arrive bientôt. C'est ce fameux imbroglio qu'il y a entre Novak Djokovic et l'État australien, puisqu'il n'est pas vacciné et il souhaite disputer cet Open d'Australie, tout simplement. Toi, Cédric, ton avis par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent un peu tous les jours sur ce sujet.
Oui, parce que là, les seules choses sûres qu'on a, c'est que pour l'instant, son visa a été validé,
ouais.
Mais on ne sait pas encore si réellement il va le jouer.
Ouais, parce que du coup,
en termes de preuves qu'il a fournies, tout n'est pas clair.
Ouais, il avait été positif en décembre.
Il a été positif apparemment en décembre, donc normalement il ne doit pas pouvoir bénéficier. D'autres disent que non. Enfin, c'est après voilà, j'avais bien aimé moi la déclaration de Nadal qui disait qu'il respectait son choix de ne pas être vacciné. Et que par contre derrière, fallait qu'il assume aussi les conséquences que.
Ouais, ça, il disait qu'il fallait qu'il respecte, enfin qu'il connaissait en tout cas les règles.
Voilà. Et après, je comprends un peu le peuple australien aussi qui a eu quasiment une année de
privation.
Je crois que c'est 250 jours de
confinement.
De confinement.
Ah ouais, enfin,
ça a été compliqué pour eux. Mine de rien, ils ont réussi, un peu endiguer la chose. Donc, il a beau être numéro un mondial, il a beau être Djokovic, il n'est pas au sein des lois, donc pour moi, ça serait tout à fait normal qu'il soit pas autorisé. Mmh. Et le truc, c'est que ça va être pareil aussi en France pour Roland-Garros. Enfin, on n'espère pas en tout cas d'ici là. Mais si on reste dans la même optique, on peut pas faire des passe-droits dans ces cas-là pour tous les joueurs du championnat, pour la Ligue 1 par exemple. Qui sont pas vaccinés, qui vont peut-être devoir se vacciner ou en tout cas soit se mettre en retraite anticipée pour la saison. Il y a un moment, faut respecter les règles pour tout le monde et c'est au-delà du sport. Chacun fait ce qu'il veut, on peut pas faire forcément que des exceptions parce que on est numéro un mondial ou. Et encore pour les footeux, c'est encore plus compliqué parce que quelque part il y a aussi c'est leur travail. Alors on peut dire aussi la même chose pour Djokovic, c'est son travail. Donc tout ça, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, ne serait-ce que pour les clubs tout ça. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Moi, ce que j'espère, c'est que si jamais il est autorisé à jouer, qu'on puisse passer à autre chose et puis au moins qu'on puisse parler que de tennis à ce moment-là, quoi.
On va pouvoir enchaîner avec le biathlon. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup ici à Génération Sport, mais en tout cas, nos Français brillent en la personne de Quentin Fillon-Maillet qui a remporté la poursuite d'Oberhof dimanche, ce dimanche, au terme d'une course rondement menée. Quentin Fillon-Maillet signe ainsi sa 3e victoire de suite en poursuite, après celle au Grand Bornand et au Chiffre. Alors, Oshilson, bon, j'arrive pas trop à le prononcer, voilà, mais en tout cas, il prend la tête du général à son compatriote Émilien Jacquelin, qui était lui totalement passé à côté de sa course. Il s'agit donc de la 9e victoire en Coupe du Monde pour le tricolore. Et on va terminer sur du handball. Cette semaine démarre officiellement l'Euro 2022 avec une équipe de France championne olympique qui aura à cœur de briller à l'échelle européenne. Les Bleus courent après un sacre européen depuis 2014. En phase de poule, ils débuteront la compétition par une rencontre au sommet face à la Croatie jeudi prochain. Samedi, ce sera l'Ukraine et enfin la Serbie lundi prochain. En attendant, les joueurs de Guillaume Gilles préparent l'Euro face à l'Allemagne ce dimanche. Dans une phase de préparation qui a été tronquée par les tests positifs et les forfaits de dernière minute, les tricolores ont perdu 35 à 34. Voilà, c'était donc leur ultime match amical avant l'échéance croate qui arrive donc jeudi prochain. Donc, une défaite pas forcément inquiétante, mais qui révèle à quel point ce jeune effectif se cherche encore un peu. Beaucoup de novices internationaux dans ce groupe et l'expérience des grands rendez-vous repose uniquement sur les épaules de Nicolas Karabatic, pour qui ce pourrait être la dernière compétition sous le maillot bleu. Voilà, pour être complet, on suivra ça également de près, donc cette Euro de handball. Cédric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer
une
breaking news, parfait.
On en parlait.
Les Ducs,
36 secondes, but.
Ah, ça va vite.
Ouverture
ça va très
du score,
vite
voilà,
du côté,
rapidement. Donc, là, c'est vraiment saisi à froid, là.
Ouais. Là, c'est directement donc les buts.
Donc
les
en tout
Ducs.
Cas, ils ont dû bien digérer cette victoire pour faire une entame comme ça.
Belle,
ça les a peut-être boostés.
Il reste toujours en temps en forme. Bah, Cédric, merci d'être venu donc dans Génération Sport. On te retrouve la semaine prochaine.
Voilà, oui, pour l'émission spéciale.
EAB.
EAB, j'allais dire UFA, mais non, ce sera la suivante.
Je vais retrouver le nom de l'invité, puis
voilà,
je le donnerai dans l'émission, mais oui. En tout cas, on se retrouve pour.
On sera normalement au complet cette fois-ci.
On verra avec Max, hein, s'il veut bien venir.
on va l'appâter. Mais en tout cas, voilà, donc, savourez l'émission. N'hésitez pas à aller sur le chat qui a été mis en place sur le site de la radio. Comme ça, vous pourrez poser vos questions en direct. J'espère que tu pourras.
Eh oui, je pourrais répondre, évidemment.
Enfin, toi, y répondre, je sais pas. Hein. Ou alors tu nous as caché que tu pratiques le pinball, mais en tout cas, nous inviter pour le faire.
On va passer à la pause musicale. On va s'écouter tout de suite le titre Respire du rappeur Angevin Aztec, tout de suite sur Radio G.
Laisse, fille, je vois que t'as le feeling boom de la caisse claire. Résonne comme le vroom vroom de la Chrysler. J'ai dit laisse, fille, je vois que t'as le feeling Aztec. Tu n'es pas de peine, pas de pitié, les choqués comme jamais. Tu voulais percer dans le sale. Au final, t'as fini par lâcher le rap. Mais personne ne t'a jamais fait de mal, mon enfant. Ouais, tu te fais du mal à toi-même. Mais personne ne t'a jamais fait de mal, mon enfant. Ouais, tu te fais du mal à toi-même. Il a une dégaine de bandit. Tant de haine, tant de peine t'empêche d'avancer. Mais putain de merde, arrête de toiler la face. Et démarre la caisse. Vas-y, démarre la caisse. Démarre la caisse. J'ai dit démarre la caisse. Ça t'appelle démon comme presse. Démarre la caisse. Tu veux des belles bitches comme Elvis. Si tu veux des belles bitches comme Elvis. Démarre la caisse, là t'as démon comme Presley. Ah, démarre la caisse, si tu veux des belles bitches comme Elvis. Démarre la caisse, là t'as démon comme Presley. Ah, démarre la caisse, si tu veux des belles bitches comme Elvis. Démarre la caisse, là t'as démon comme Presley. Ah, démarre la caisse, si tu veux des belles bitches comme Elvis. Respire. Respect perdu comme un vestige. Élève l'esprit, il est temps de s'investir. Je répète pour les perplexes, pour leur faire baisser. Respire, élève ton esprit, car c'est comme ça que tu l'auras la Rolls Royce. La villa, le jet, le compte offshore. Ta place vide pour les playoffs, quelques bad bitch. Et non, la paresse comme certains. Donc laisse, fille, je vois que t'as le feeling boom de la caisse claire. Résonne comme le vroom vroom de la Chrysler. J'ai dit laisse, fille, je vois que t'as le feeling Aztec. Tu l'es pas de peine, pas de pitié, les choqués comme jamais. Ça finit.
toujours. Sale histoire, en sale histoire. Complètement défoncé, le sol sous ses pieds s'est affaissé. Vas-y, démarre, démarre, démarre. Vas-y, démarre, démarre, démarre.
Démarre, démarre la caisse.
On est de retour dans Génération Sport pour la suite de votre émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur www.radio-g.fr. D'ailleurs, si vous êtes sur Internet, vous pouvez toujours nous contacter sur le chat du site de Radio G. On sera ravis de répondre à vos questions et à vos réactions à propos de l'émission. Nos invités sont là aujourd'hui. Ils ont des beaux maillots et ce sont les représentants du SCO Kimball. Fabien Rio, président du SCO Kimball, donc rebonjour.
Bonjour.
Et Céline Robert, donc joueuse depuis plus d'une dizaine d'années, je crois.
Oui, c'est ça, depuis 2010.
Très bien. Donc, on va commencer par des questions un peu élémentaires, parce que je le disais, le Kimball, en tout cas, en Maine-et-Loire, je trouve, en tout cas, il est un peu plus reconnu, mais il est encore méconnu aux yeux du grand public. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler les règles du Kimball?
Donc, c'est un sport de 3 équipes, de 4 personnes, un terrain carré en intérieur. Et ce fameux gros ballon d'1m22 de diamètre, il pèse un peu moins d'un kilo. Pour ce qui est des règles, il y a 3 équipes pour les 3 couleurs. Bleu, gris, noir. Par exemple, les bleus vont engager. Ils vont avoir la balle. Quand ils vont... ils vont d'abord commencer par appeler une autre équipe en disant Omnikin, la couleur qu'ils veulent appeler. Donc les gris ou les noirs. Au moment où, une fois qu'ils ont appelé, le ballon part. Au moment où le ballon part, un frappe, les 3 autres tiennent le ballon. Et la couleur appelée, les joueurs qui sont de la couleur appelée doivent rattraper le ballon. Mmh. Par n'importe quelle partie du corps.
Ok.
C'est ça, j'ai bien résumé.
Tout est permis pour la défense.
C'est ça. Et si ça tombe, donc le point est perdu, c'est ça?
Voilà. Le ballon est rattrapé, l'action continue.
Ok.
Le ballon tombe, ça fait un point pour les deux autres équipes. Donc là, j'ai dit que c'était qui était appelé, c'était les gris, je crois.
Oui.
Du coup, ça fait un point bleu, un point noir.
Ok. Et vous, à titre personnel, comment vous êtes arrivé au Kimball et au club du SCO Kimball? Par quel moyen vous avez entendu parler de ce sport?
C'est des copines dans mes études qui avaient entendu parler sur un forum du Kimball et qui m'ont dit qu'elles allaient essayer. J'étais un peu curieuse, je les ai accompagnées
et voilà.
J'ai jamais quitté Kimball.
Et toi, Fabien, comment t'es arrivé au Kimball?
Moi, pareil, c'est par le bouche-à-oreille. Je suis arrivé sur Angers en 2015 et pareil, un ami m'a parlé de ce sport. J'ai essayé, moi j'ai tout de suite accroché, hein, donc ça va faire 6 ans maintenant.
Et quand est-ce que tu es devenu président du club?
C'est depuis cette année.
Ah, c'est depuis cette année, donc c'est assez récent.
C'est nouveau.
Le club, il s'est créé à quelle époque? Enfin, à quelle date, précisément?
Alors, le Kimball en lui-même a été créé en 1986 par un professeur de PS au Québec.
Ok.
Et c'est un étudiant angevin qui est parti faire ses études là-bas et qui l'a ramené et a créé le club en 2001.
D'accord.
Où Angers a été le premier club créé en France.
Mmh. Et au départ, est-ce que le club s'appelait SCO Kimball ou est-ce que c'était Angers Kimball?
Non, il avait un autre nom, mais je ne le connais pas.
Ouais. Parce que d'ailleurs, ça me rappelle qu'on a dû recevoir justement cet ancien nom, je pense, dans le passé. À quel moment vous avez le club a relié le SCO Omnisport? Parce que vous faites partie donc maintenant du SCO Omnisport, c'est bien ça?
C'est ça.
Et du coup, à quel moment le lien s'est fait? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous?
Alors ça, malheureusement, pareil, je ne peux pas vous répondre parce que c'est antérieur à mon arrivée au club, donc je ne serai pas capable de vous donner une date.
Par rapport au SCO Omnisport, est-ce que du coup il y a des choses qui sont organisées avec d'autres clubs ou vous n'êtes pas forcément en relation?
Il y a eu des choses qu'on avait commencé à se faire. Malheureusement, le contexte Covid est arrivé par là.
Bien sûr.
On avait organisé une fête pour les 100 ans du SCO. avec un tournoi pour permettre aux Angevins de découvrir tous les sports disponibles au SCOM Nisport, que ce soit l'escrime, le football américain avec les Yankees, le kinball avec nous. Ça avait un petit peu marché, malheureusement ça a dû être mis en arrêt à cause du Covid, malheureusement. Et après, sinon, c'est souvent des échanges entre les clubs.
Après, il y a quand même les rencontres sportives qui sont maintenues malgré le contexte sanitaire. On arrive à avoir un championnat qui est à peu près maintenu cette année. Il y a un championnat régional, un championnat national. Donc, ça permet quand même de faire
et un championnat junior.
Et un championnat junior, tout à fait.
Et bien, justement, j'allais y venir. Comment ça se déroule une saison de kinball?
Alors, une saison de kinball, c'est 6 open. On joue 3 matchs par jour.
Ok.
Un système de classement. Vous gagnez plus ou moins de points comment vous finissez le classement de la journée. Et après, c'est un cumul sur les 6 journées. Ok, et après.
Il y a quand même une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que ça se joue en 4 périodes de 11 points.
C'est ça.
Donc, oui, pour disait. Et après. Là, c'est pareil, c'est avec des points d'interrogation, ça va dépendre du contexte Covid. Peut-être qu'après, on finit par une journée de play-off pour vraiment finir sur une finale.
Et au niveau du club, à quel niveau évoluent vos équipes féminines et masculines?
Alors, l'équipe masculine joue en niveau régional, ce qui équivaudrait à la 3e division.
Ok.
Chez les filles, c'est un petit peu particulier. Les filles jouaient en D1 l'année dernière, sauf que le Covid a fait très très mal au kinball féminin et a détruit la D1.
D'accord.
Du coup, elles sont reléguées provisoirement en régional le temps qu'une D1 se reforme. Okay.
Donc il n'y a plus de D1 féminin.
Il n'y a pas de championnat national féminin cette
année.
Donc on espère que ça reviendra l'année prochaine, mais en tout cas.
Les clubs refont leur effectif petit à petit. Ça va se faire, mais il faut patienter.
On reviendra sur les autres clubs de kinball qu'il y a dans la région. Mais avant ça, on va revenir au club du SCO en lui-même. Où est-ce que se passent les entraînements du SCO?
Alors, le SCO a 2 entraînements par semaine.
Okay.
Le lundi, à la salle Jean Mermoz, au quartier de la Roseraie, de 21h15 à 23h. Et le vendredi, à la salle Félix Landreau, au quartier des Justices, de 20h30 à 22h30. Ces entraînements sont accessibles à tout le monde. Vous pouvez venir quand vous voulez.
Donc le message est passé pour les auditeurs qui nous écoutent. Et du coup, il s'est encadré. Il y a des coachs de kinball, c'est ça? Ou c'est entre vous? Vous connaissez les règles?
Souvent,
vous jouez?
C'est les joueurs vétérans qui organisent les entraînements. Donc, en l'occurrence, souvent pour l'instant, c'est moi.
Okay.
Les autres licenciés peuvent intervenir s'ils veulent travailler des choses en spécifique. J'adapte les entraînements en conséquence. Mais ça commence toujours par un petit peu de physique, après de la phase technique, en variant, bosser l'attaque, la défense, les frappes, et on finit forcément toujours par des matchs.
Du coup, vous êtes une vingtaine de licenciés dans le club?
22, pour être
22
précis.
22. Au niveau de l'ambiance, c'est plutôt cool, c'est plutôt familial.
C'est plutôt cool, c'est l'avantage aussi d'être une petite structure, c'est que c'est très familial, les licenciés sont, les nouveaux sont très vite intégrés dans le club.
Oui, je n'aurais pas dit mieux. Très bonne entente, bonne ambiance, bonne humeur.
Et du coup, vous avez donc deux équipes. Combien d'équipes vous avez?
Deux équipes, une masculine, une féminine.
Une équipe junior, c'est pas encore en prévu?
C'est pas pour tout de suite. C'est pas qu'on veut pas. C'est que malheureusement sur Angers, il y a beaucoup de clubs qui pratiquent des sports en gymnase.
Ouais.
Il
n'y
a pas assez de place pour tout le monde.
Ouais, c'est compliqué pour vous de trouver des créneaux.
Pour nous, ça va. Maintenant, c'est plus un problème. Mmh. On a nos créneaux, c'est acquis. Après, les juniors, on espère qu'ici d'ici quelques années, peut-être, enfin pouvoir réussir à lancer le projet.
Et pour donner une ordre d'idée à nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que le SCO Kinball est quand même un club majeur en France? Quelle est sa portée à échelle nationale? Parce que vous disiez quand même, il y a quand même une équipe en nationale. Une équipe en régional, c'est quand même pas rien. C'est quoi un peu le rayonnement du SCO Handball, du SCO Kinball, pardon?
On reste un grand club. On n'est pas le plus grand maintenant. Il y a des plus grosses structures. Je pense notamment à Nantes, qui a un très gros club, un très gros effectif.
Ouais.
Et également les Poncés,
notre
voisin, parce qu'ils ont plusieurs joueurs qui jouent actuellement en équipe de France.
Ouais.
Tu vois d'autres clubs?
Après, ça évolue au fil des années. Il y a eu Rennes à un moment donné où ils étaient un peu plus nombreux. Voilà, ça, ça change.
Ça change un petit peu. Au niveau de, des projets pour la suite, quelles sont les ambitions des équipes déjà, c'est d'un point de vue sportif, est-ce qu'il y a des échéances et des ambitions?
Les projets du club du point de vue sportif, déjà pour l'équipe masculine, essayer de remonter en D2.
Ok.
Les filles, forcément, on va remonter en D1 le plus vite possible. Malheureusement, ça n'a pas de date. Et sinon, gros événement à venir, eh bien, il va y avoir une journée de championnat qu'on organise, okay. Journée nationale, le 27 mars.
Okay.
Le 27 mars. Et un très gros projet qui viendra pour le week-end du 18-19 juin, où le club d'Angers organisera la Coupe de France.
D'accord. Ah oui, c'est assez important.
Donc ce sera des matchs ouverts au public. Surtout n'hésitez pas si vous avez envie de voir du kinball. Et puis qui sait, peut-être vous accrochez, on vous accueillera l'année prochaine.
Évidemment. Évidemment, c'est aussi ça, hein, c'est de potentiellement peut-être trouver des passionnés de kinball dans ceux qui nous écoutent. On va faire une petite pause musicale et puis après on reparlera du kinball dans toute sa structure. On va donc tout de suite pouvoir s'écouter. Alors évidemment, quand je suis tout seul à la régie, c'est un peu compliqué de préparer ces pauses musicales puisque je n'ai c'est assez compliqué, mais en tout cas voilà, on va s'écouter tout de suite Stromae et son titre Santé. Voilà, vous savez peut-être qu'il a il y a 2 jours, je crois, il a fait son nouveau titre L'Enfer sur le 20h de TF1. Mais en tout cas voilà, on va s'écouter tout de suite son précédent titre Santé, qui cumule déjà 25 millions de vues sur YouTube. On s'écoute ça tout de suite sur Radio G.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser. Brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
C'était Stromae, son titre Santé. Tout de suite, on est de retour dans Génération Sport. On va donc pouvoir enchaîner l'interview avec le SCO Kimball. Hein. Je rappelle, on est avec Fabien Rio, le président du SCO Kimball, et Céline Robert, joueuse depuis une bonne dizaine d'années. Déjà, j'avais une question donc pour vous deux qui sont joueurs. Est-ce que vous avez un souvenir marquant sur un match, une compétition qui vous a marqué en tant que joueur?
Oui, je pense que c'est avant d'arriver au SCO. On avait gagné le championnat national avec mon équipe et c'était
un grand moment.
Ouais.
Avec quelle équipe?
Nantes.
Ok, d'accord. Et c'était ouais, un moment marquant.
Oui.
Parce que du coup, bah, tu es championne de France, on peut le dire.
Oui.
C'est ça, tu es championne de France de Kimball, c'est quand même pas rien
ouais.
pour Angers. Et toi, Fabien?
Moi, j'en aurais deux. Ça aurait été déjà mon premier match quand je suis arrivé au SCO. Parce qu'à cette époque-là, l'équipe masculine jouait en première division. J'ai fait mon premier match. Et mes coéquipiers m'ont dit, tu vois tous les joueurs que t'as en face, ouais, les trois quarts jouent en équipe de France.
ça calme.
Ça,
directement.
Ça a été un match très drôle, très rapide. Et sinon, au bon moment, bah, c'est avec l'équipe masculine, c'est quand on a gagné en niveau amateur la Coupe de France à Vannes en 2019. Il dit pas de bêtises. Je crois que c'était en 2019.
Ok. Donc je le disais, le Maine-et-Loire, on peut le dire, avec donc l'autre club des Ponce, c'est une terre, on peut le dire, de Kimball, parce que c'est vrai que c'est en France, en tout cas, pas très connu, pas très développé. Il y a quand même une fédération française, si je me trompe.
Il y a une fédération française, ouais. Il y a une fédération internationale.
Ok.
En France, le Kimball, c'est vrai, beaucoup plus représenté dans le Grand Ouest.
Okay.
Où il y a vraiment un club, on va dire, à partir de Paris, après dans toutes les plus grandes villes, Pays de la Loire, Bretagne. Ouais. Ça se développe bien aussi maintenant dans le Nord, un peu dans le Sud-Ouest. C'est okay. vraiment la partie Est de la France où c'est encore un petit peu
ouais,
difficile.
C'est un peu...
Hormis un club qui est à Missimi, qui est près de Lyon, sinon c'est, je crois qu'il n'y a rien d'autre.
Ah oui, d'accord. Oui. C'est très local dans l'Ouest.
Pour l'instant, oui. On se développe petit à petit, mais... Ouais.
Globalement, c'est des gens de l'Ouest qui déménagent, j'ai l'impression.
En général, ouais, c'est ça.
Mais comment on peut expliquer ça? C'est assez bizarre, non?
Est-ce que c'est les origines? Est-ce que c'est peut-être. Le club... Bah, du coup, l'Angers étant le club historique, après, par rayonnement, les gens apprennent le Kimball, déménagent, fondent leur club. Ça, mine de rien, c'est quand même assez récent. 2001, l'arrivée en France du Kimball.
Ouais, ça se propage. Enfin, ouais. Ça a commencé dans l'Ouest, ça se propage petit à petit. Quoi.
Oui, voilà.
D'accord. Donc, je disais, il y a les Ponce-Sec aussi, un club important. Est-ce qu'il y a une petite rivalité avec eux? Parce que c'est quand même les voisins, on peut le dire.
Bon, trop maintenant, parce qu'on ne s'affronte pas dans les mêmes divisions.
Okay.
Mais quand c'est le cas, oui, il y a une petite rivalité, mais c'est bon enfant. C'est,
ouais, vous les connaissez un peu, non?
Oui, on les connaît très bien.
Ouais.
Et puis, mine de... enfin, dans le Kimball, il y a une des valeurs assez fortes, c'est le fair play. Donc, enfin, c'est valable sur le terrain, mais par extension aussi à l'extérieur. Par exemple, sur le terrain, le capitaine s'adresse à l'arbitre. Par contre, les joueurs n'ont pas le droit de faire des commentaires sur ce qui se passe, sur... peut-être une décision d'arbitrage qui paraît pour un joueur qu'il trouve cette décision pas juste ou pas, qui ne pense que c'est pas ça qui aurait dû être sifflé, interdit de faire quelconque commentaire.
Okay.
L'arbitre siffle ce qu'il a vu.
Okay.
Donc,
pas d'insulte, même contre soi-même.
Oui.
C'est interdit.
Pas d'insulte contre soi-même. C'est sanctionné ça, justement, quand ça arrive?
Oui.
Carton jaune.
Carton jaune, ok.
Ou carton rouge, je crois que ça s'est vu dans l'histoire du Kimball aussi.
Plutôt rare, mais c'est déjà
arrivé.
Et justement, est-ce que les gens qui découvrent un peu ce sport, qui ont peut-être eu l'occasion d'arriver, est-ce qu'ils ont été un petit peu surpris de ce côté strict de l'arbitrage? Est-ce que vous avez dû recadrer peut-être certains débutants?
Alors, dans notre club, non. Mais je sais que c'est déjà arrivé dans notre club, où notamment, bah, par exemple, c'est un mauvais exemple, mais des gens qui viennent du foot.
Ouais.
Ou voilà, ne pas contester l'arbitre, ça pouvait être compliqué.
C'est un peu contre nature, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué dans les autres sports. C'est, en tout cas, c'est pas assez. En tout cas, c'est pas aussi bien structuré le respect de l'arbitre que dans le kimball. Enfin, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au foot, on voit beaucoup ça. Malheureusement, en tout cas, en amateur, on voit pas mal d'arbitres qui sont rapidement insultés. Max, qui n'est pas là aujourd'hui, pourra en être témoin. Mais en tout cas, moi aussi, je vois ça aussi au niveau. Moi, je fais du handball. Je vois ça aussi. Il y a un peu plus de respect qu'au football, mais toujours avec la notion de toujours respecter. En tout cas, vous, j'ai l'impression que ça se voit en tout cas encore plus le respect de l'arbitre.
Surtout qu'il y a un autre point, c'est que si on se prend des cartons, ça a une incidence après sur les points en classement. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas dans
C'est carrément des pénalités en fait.
C'est des pénalités.
Ouais, donc ça a une vraie incidence.
Oui.
Sur le sportif.
Il faut avoir vraiment l'esprit d'équipe et que voilà, même si on a un commentaire à faire, on le garde pour soi aussi pour l'équipe.
Parfois, c'est dur pour vous de vous contenir un peu.
Bah, ça peut arriver sur des.
Ça peut arriver des petites montées d'humeur, mais souvent c'est vite calmé pour les coéquipiers et dès que le match est terminé, on sait que là on peut aller discuter avec les arbitres sans qu'il y ait forcément l'entraîneur ou le capitaine.
Très bien. En 2019, les championnats du monde de kimball ont été organisés au Ponce. Est-ce que le SCO a été impliqué de quelle manière? Est-ce que vous, déjà personnellement, est-ce que vous êtes allé voir la compétition ou pas du tout?
J'y ai participé.
Ah d'accord. En équipe de France du coup?
Non. Avec le. Alors faut savoir que la Coupe du Monde, il y avait trois compétitions en une. Il y avait la Coupe du Monde avec les équipes nationales.
Ok.
Et deux Coupes du Monde des clubs, une en niveau pro, une en niveau amateur. Le SCO avait engagé une équipe dans les deux compétitions.
Ok.
En niveau pro, niveau amateur. Malheureusement, niveau amateur, on est vite sorti.
Ok.
À cause de blessures et qu'il y avait aussi de bonnes équipes en niveau amateur. Mmh. En pro, ils ont su se défendre, mais ils n'ont pas atteint les finales.
Ok. Et c'était quoi la différence entre pro et amateur? Parce que
la différence de niveau.
Ouais.
Clairement, c'est ça. C'est,
ok, d'accord. C'est pas vraiment genre.
Tout autre niveau, c'est vraiment marquant. C'est.
Ouais.
Pour vous donner une idée de ce que je m'en rappelle des matchs, et on pourrait comparer ça, si on revient toujours sur le foot, à, on va dire peut-être de la D1 avec la Nationale 2, Nationale 3.
D'accord, ok.
Et il y a des équipes où vraiment il y avait vraiment une grosse différence de niveau.
Ouais. Et quand vous assistiez aux autres matchs, ça vous a peut-être.
Quand on jouait pas, oui.
Ouais, ça, vous avez appris des choses peut-être, vous avez.
C'est toujours intéressant de voir les stratégies que mettent en œuvre des nations, des stratégies auxquelles on n'aurait pas du tout pensé.
Le kimball en niveau international est très spectaculaire.
Ouais.
C'est très impressionnant, c'est très tactique, c'est très rapide, ça vole dans tous les sens. Si vous avez l'occasion, tapez sur YouTube Coupe du Monde kimball, essayez de regarder des matchs, vous verrez, c'est très impressionnant.
Et sur l'événement, il y avait du monde, je crois. La salle était quasiment remplie, c'était au Ponce.
C'était à la salle Athlétis. Et si je dis pas de bêtises, à partir des demi-finales, le gymnase était complet.
Ouais, c'était assez impressionnant de voir l'engouement.
Et le gymnase était quasiment complet à chaque match équipe de France.
Ouais, c'était quand même pas mal. Et vous, ça vous fait quoi de voir un événement aussi important pour le kimball près de chez vous? C'est quand même quelque chose.
Bah déjà, c'est un événement qu'on voit pas tous les jours déjà.
Ouais.
Et mine de rien, ça avait fait du bien au club du Maine-et-Loire au niveau publicité.
Ouais.
Ça a
beaucoup marché au Ponce, mais on a eu des retombées aussi.
Forcément.
Les gens ont beaucoup parlé, ils disaient « Ah, kimball, je connais pas, on va tester, Ponce, ah, il y a un club à Angers aussi, bon, on va aller voir. »
Ouais, dans les médias, ça en avait pas mal parlé, les médias locaux notamment. Et du coup, sur la discipline en général, tu parlais des pros, est-ce qu'on peut vraiment parler de professionnalisation, pardon, je vais y arriver.
Pas au terme, je pense, où tu l'entends, parce que ce n'est pas des joueurs où c'est leur métier.
Ok, d'accord.
Mais ils ont un niveau qui fait qu'on les appelle
c'est les meilleurs du monde, entre
guillemets.
C'est les meilleurs. Est-ce que c'est envisagé par les grandes instances, entre guillemets, mondiales, de potentiellement avoir des gens dans ce métier?
Pas tout de suite.
Pas maintenant.
On est encore un trop petit sport, on est encore un sport émergent. C'est pas pour tout de suite.
Et donc au niveau de l'équipe de France, comment ça se situe le niveau? Je crois qu'ils avaient gagné la médaille de bronze, c'est ça?
L'équipe de France, c'est un habitué des podiums.
Mmh. Ok.
C'est très rare les compétitions d'ailleurs où ils ne finissent pas sur le podium.
Ouais.
En niveau international, c'est souvent entre le bronze et l'argent. Parce que l'équipe du Canada est pour l'instant inaccessible, on va dire. Mmh. sont champions du monde en titre. Je crois que niveau masculin, je crois qu'ils n'ont jamais perdu, ou juste une fois.
Ah oui, d'accord. Une fois, je crois. Le Japon, et dans ce cas, c'est les
filles.
Trôner,
ouais. C'est les filles dans ce cas qui n'ont jamais perdu. Okay. Chez les Canadiennes.
C'est les créateurs du sport, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et eux, pareil, jouent en tout autre niveau.
Il y a une grande différence.
Et puis c'est très répandu à l'école en fait là-bas, donc d'accord. Ils commencent très jeunes.
Ok, c'est un sport.
On commence à faire notre trou petit à petit dans les écoles. Les professeurs sont très intéressés, mais le Canada a des années d'avance sur nous.
Ouais,
donc,
clairement. Il y a un autre club important dans la région, c'est Nantes. Je me suis un peu renseigné avant pour préparer l'émission. Il y a beaucoup d'équipes. Je crois qu'il y a quasiment 6 équipes chez les filles et chez les gars. C'est assez impressionnant. C'est pareil, une notion, peut-être un exemple à suivre pour plus tard d'avoir autant de monde.
Ce serait bien. Ce serait un bel avenir pour le SCO.
Ce serait un bel avenir. Après, on verra déjà quand le Covid nous laissera un petit peu la
place. Oui.
On aimerait bien regonfler un peu nos effectifs, c'est sûr.
Ouais.
Parce qu'il y a une époque où on avait quand même 4 équipes. Okay. 2 masculines, 2 féminines. C'était quand même plus agréable, surtout pour les entraînements.
Ça va revenir. Les gens vont adorer venir voir le King Ball le 27 mars et le 18-19 juin.
C'est ça.
Parfait, donc déjà le message est passé. J'avais une question que j'ai oubliée, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Parce que là, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Quelque chose à rajouter sur un événement que vous... Bah, du coup, on le disait. Donc c'était 27 mars et 18-19 juin. Peut-être on peut rappeler les dates d'entraînement.
Rappel, on vous attend tous les lundis et vendredis. Lundi 21h15, 23h à la salle Mermoz et le vendredi 20h30, 22h30 à la salle Félix Landreau.
Ouais, vous proposez toujours aux gens de venir pour les initier un peu.
C'est ouvert toute l'année pour les gens qui veulent découvrir.
C'est ça. Et pour prendre une licence, ça peut se faire aussi en cours de saison.
Ça peut se faire en cours d'année.
D'accord. Ok, donc vraiment, bah, du coup, n'hésitez pas, chers auditeurs, à venir au SCO King Ball, donc salle Jean Mermoz, c'est ça, à Angers, près de la Roseraie. Très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous donc sur Radio G. Encore quelque chose à rajouter, peut-être une dédicace,
oui,
un truc.
Non, on est visible sur Facebook, Instagram.
Oui, voilà, les réseaux, voilà. Évidemment. Donc voilà, très bien. Bah, merci beaucoup à vous d'être venu sur Génération Sport. Donc dans cette, on espère que vous avez découvert, chers auditeurs, un nouveau sport. Mais c'est vrai qu'on avait déjà reçu, je crois, un club de King Ball. Donc je pense que les plus fidèles de l'émission ne sont pas étrangers à ce sport avec cette balle géante, on peut le dire. L'émission va toucher à sa fin. On va bientôt laisser la place à Imagine qui va arriver juste après. On va finir un peu plus tôt, évidemment, parce que je ne suis pas aidé par mes collègues qui me délaissent ce soir, mais en tout cas voilà, on se retrouve la semaine prochaine, comme je disais, avec une émission spéciale EAB. Alors si je peux essayer de vous retrouver l'invité qu'on reçoit, en tout cas n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Facebook et Instagram. On est de plus en plus actif, donc comme vous voyez ce week-end vous a fait partager le vécu de Cédric qui était présent à l'Ice Park. Donc voilà, si jamais on vient à assister à d'autres événements sportifs en juin, évidemment on n'hésitera pas à vous les communiquer. On reçoit donc Roser Malonga la semaine prochaine, donc joueur de l'AB, donc qui va venir donc le 18 janvier prochain. Je peux même vous donner les autres, ce sera Yuri Moroz le 15 février, et en avril on recevra Tim Ebo et Akemji Williams. Donc voilà, un très beau programme à venir donc pour les émissions AB, pour l'UFAB. On vous recommuniquera ça évidemment par la suite. Je vais vous laisser avec le générique. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Radio G, et puis je vais vous laisser en compagnie de l'équipe d'Imaginaire, et on se retrouve la semaine prochaine mardi 20h sur le 100.5 FM de Radio G.